Il est 8h sur l'écho des planches, vous êtes en direct du Festival d'Avignon. Aujourd'hui, le deuxième point presse du 8 juillet, animé par Arnaud Laporte, en compagnie de Thiago Rodriguez, Ambra Senatore, Lémy Ponifacio et Pierre-Yves Chapelain. Bonne écoute à tous.
Bonjour, bienvenue à ce troisième point presse du Festival d'Avignon, 71e. Des rendez-vous quotidiens dans cette courette du cloître Saint-Louis, à retrouver sur le site du festival, mais sur celui de théâtrecontemporain.net également, partenaire du festival, à écouter aussi sur l'écho des planches, point presse toujours un peu rapide, qui donne quelques clés d'entrée dans l'univers des créateurs qui sont à ce micro, un exercice rapide. D'autant que le programme aujourd'hui est chargé. Dans un instant, Thiago Rodriguez nous parlera de Sopro, Ambra Senatore nous parlera de Chena Madre, Lémy Bonifacio de Standing in Time et Pierre-Yves Chapelain de Où sont les ogres. Quatre spectacles en une petite heure. Thiago Rodriguez, on va aller à l'essentiel. Vous dirigez le Théâtre National Dona Maria II de Lisbonne depuis 3 ans maintenant.
Oui.
On peut vraiment dire que c'est ce théâtre, ce lieu-là qui a inspiré le spectacle que vous présentez à Avignon, Sopro, souffle, en français, on pourrait dire. Alors, je ne sais pas si l'expression existe en portugais, que le sujet vous a été soufflé par le théâtre.
Oui, c'était bien le cas. Bonjour à tous, merci d'être là. C'était sûrement un spectacle que je ne ferais pas si mon histoire n'était pas celle dans un artiste avec une petite compagnie, plutôt nomade, qu'il y a 2 ans et demi, presque 3 ans, était invité à habiter une grosse maison avec 100 personnes qui y travaillent, avec tous ces métiers des grandes maisons du théâtre. Et, mais en vérité, l'idée du spectacle, elle m'était venue la première fois que j'ai travaillé en tant qu'artiste invité au Théâtre National, Dona Maria II, à Lisbonne. Et là, elle s'est presque mise en marche, mais après, pas d'argent. Et finalement, quand j'ai été nommé à la direction du Théâtre National, j'ai dit à Christina Vidal, la souffleuse du Théâtre National, que c'était avant que j'ai été viré, on allait faire ce spectacle où elle serait sur scène pour la première fois. Et on l'a réussi. Je ne suis pas encore viré, on l'a fait.
Est-ce que vous avez déjà eu des trous de mémoire, vous, comme, en tant que comédien?
Ah, en fait, j'ai eu mon premier trou de mémoire de ma vie en tant que comédien pendant les répétitions de ce spectacle. Je tournais un petit solo que je fais by heart et je le tournais à Porto, au Portugal, pendant que je faisais ce spectacle qui parle beaucoup des trous de mémoire et de la souffleuse. Et pour la première fois, je me suis oublié, en fait, d'un poème que je dis presque une centaine de fois pendant le spectacle, mais je me suis oublié dans le verre. C'était la première fois de ma vie. Je pense que c'était de la contamination du processus de travail de ce spectacle.
Ouais, que ça tombe sur Barry Hart, c'est évidemment assez spectaculaire. Mais alors, ce qui frappe toujours dans vos créations, c'est que le travail de la forme est toujours aussi important que le travail du fond. J'ai le sentiment que vous ne pouvez pas traiter un sujet, en l'occurrence une souffleuse, tant que vous n'avez pas trouvé la forme dans laquelle vous allez traiter le sujet.
Oui, il y a une recherche d'une langue. C'est comme créer un spectacle pour moi. Parfois, j'identifie la passion et la difficulté d'apprendre une langue étrangère, mais avec l'avantage et les difficultés qu'on est en train d'inventer cette langue étrangère, ce pays, cette culture, etc. On essaie de l'inventer pour l'apprendre. Et c'est quelque chose comme ça qui m'enthousiasme beaucoup, mais jusqu'au moment où on a inventé cette langue avec une grammaire, un vocabulaire propre, singulier, c'est difficile de l'appeler encore une pièce. Et quand ça s'est inventé, voilà, on démarre, on peut commencer à écrire, à répéter. Alors la première partie du processus de travail, c'est toujours d'inventer cette langue avec laquelle on veut parler, qui est parfois la forme, le dispositif, mais aussi la culture de cette forme, le contenu, l'humanité de cette forme aussi.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui qu'on retrouve très souvent dans votre travail, Thiago Rodriguez, c'est le rapport des êtres humains avec le texte, qu'il soit théâtral ou non. Bien sûr, Sopro, mais aussi Bovary, By Heart, vous en parliez, Antoine et Cléopâtre. Je parle des spectacles qu'on a pu voir en France. Il y a vraiment une histoire d'humanité envers le texte. Il y a quelque chose comme ça qui est un fil rouge dans votre écriture, dans votre travail ?
Non, je fais des spectacles pas humanistes du tout, mais là, je les présente seulement en Portugal. En France, je présente les spectacles humanistes. Non, je pense qu'il y a un vrai plaisir de créer avec des gens. C'est le rencontre. Il y a déjà des gens de l'équipe qui sont là. João Pedro qui était sur scène hier. En fait, c'est le plaisir d'être ensemble et de penser ensemble. Et après, parfois, il y a des spectacles qui sont réussis. Mais s'ils ne sont pas réussis, au moins qu'ils ne sont pas réussis avec la transparence et la clarté de savoir qu'on était vraiment ensemble. Mmh. Alors, pour moi, c'est plutôt les gens qui sont en premier plan, pas seulement dans le processus de travail, mais même sur scène. Mmh. C'est ce qui m'intéresse à voir aussi quand je suis spectateur, des gens avant. Et après, en sachant que dans des gens, surtout dans des acteurs, des comédiens, il y a des formes infinies qui sont encapsulées dans ces gens, mais les gens en premier plan. Alors là, je pense qu'il y a une échelle qui est l'échelle du théâtre, qui est l'échelle humaine, qui n'est pas l'échelle de la reproduction mécanique, industrielle, etc., qui est l'échelle de, comme ça, vivante.
Dans aussi. Cette échelle vivante, justement, dans Sopro, c'est un spectacle qui fait un mouvement de balancier tout le temps entre le ludique, le jeu et l'émotion. Il y a la pièce dans la pièce dans la pièce, donc ça joue évidemment avec le spectateur, mais il y a aussi un final, parce que vous arrivez quand même à finir des fois, qui serre la gorge. Enfin, il y a une émotion extrêmement forte, mais voilà, pas du tout racoleuse. Ce mouvement racoleuse, vous ne jouez pas avec nos émotions. Vous n'êtes pas...
Merci.
Voilà. On fait des cours en même temps, mais il faut m'apprendre le portugais aussi.
Non, sinon, Arnaud, je dis, oui, racoleuse, pas racoleuse du tout, et je ne sais pas ce que je dis.
Il faut m'apprendre le portugais, alors, okay. Bon, en échange. Ce mouvement de balancier, il est compliqué. Comment est-ce que vous dosez les émotions ? Quand il y a une émotion qui risque justement d'être racoleuse, vous cassez ça ?
Moi, je ne veux jamais ce genre de manipulation. De sentimentale, mais je veux de l'émotion. Et après, je m'entoure des gens, pas seulement avec beaucoup de talent et avec une pensée très intéressante en théâtre, mais je m'entoure des gens qui font sonner l'alarme des moments où je mets des violons en trop. Voilà. Et parfois, je le fais toujours. T'écris une petite histoire et tu veux qu'elle fonctionne, qu'elle est la plus efficace possible en tout terme. Et après, si t'es vraiment en débat, et j'écris en débat tous les jours avec les comédiens et toute l'équipe, si t'es bien entouré, il y a des gens qui vont te dire, là, il y a trop de violon, tu peux pas faire ça, laisse-leur... vivre le texte, etc. Et c'est le résultat d'une écriture et d'une mise en scène en débat permanent, c'est que tu testes les idées avec les gens que tu fais le plus confiance avant. Alors quand tu les partages, elles appartiennent à tous, mais aussi elles étaient filtrées par l'intelligence et l'émotion et l'humanité des gens avec lesquels tu as choisi de passer quelques mois de ta vie.
Dans cette recherche de l'émotion qui ne soit pas racoleuse, il y a une chanson, Wild in the Wind. C'est pour Nina Simone ou c'est pour David Bowie ou c'est pour ce qu'elle dit, cette chanson ?
Dans mon cas, c'est pour Nina Simone, que je trouve une des grandes artistes du XXe siècle. Mais David Bowie, génial, mais dans mon cas, la source, c'est Nina Simone.
Ouais, mais là, vos comédiens, géniaux aussi. Cette version qu'il donne, c'est quand même...
Oui, c'est incroyable. Hein.
Très,
c'est
grande
eux,
beauté.
C'est à eux. J'ai essayé de la contrôler, mais ils l'ont pris. C'est à eux. C'est vraiment... Moi, je suis touché chaque fois. Ils inventent tout le temps avec cette chanson. Et voilà, c'est, Mais c'est une chanson qui était là, très présente, quand j'ai essayé de commencer à écrire la pièce. Et qui finalement, on a réussi à introduire dans la pièce. Parce que ça fait longtemps que je voudrais cette chanson dans une pièce. Et normalement, ça ne colle pas. Et cette fois, ils étaient tolérants. Ils m'ont laissé utiliser la chanson.
Oui, mais elle colle complètement parce que le vent, le souffle, la respiration, c'est un thème aussi très obsessionnel chez vous, Thiago Rodrigues. On se souvient d'Antoine et Cléopâtre qui inspirent, expirent. C'est plus beau en portugais qu'en français. Puis là, vous dites que l'un des personnages dit que dans les théâtres, on respire toujours le même air et que du coup, on raconte toujours les mêmes histoires. Et du coup, c'est vrai que c'est un phénomène, c'est le plus naturel, vital, respirer, et on n'y pense jamais. On y pense quand on voit vos spectacles. Ça nous ramène à l'essentiel.
Oui, je pense que c'est plutôt ça. Je suis très intéressé, ou je suis devenu très intéressé à la quantité de choses qu'on peut faire avec le moindre de choses accessibles. Au Portugal, on l'appelle, peut-être en France, vous l'avez aussi, des omelettes sans des œufs. En fait, c'est une expression. Au Portugal, pour nous, pour plein d'artistes, c'était pendant, et encore pour beaucoup d'artistes aujourd'hui, c'est même une philosophie de vie, quoi. Maintenant que j'ai plus de moyens, parce que je suis dans cette maison incroyable, le Théâtre National, alors proche des moyens de production les plus forts du théâtre portugais, mais même là, j'utilise peu d'œufs. Ils sont de grande qualité, mais l'économie de moyens est très importante pour moi, et je pense que la question de la mémoire, de l'évocation, de l'imagination du public, dans certains vides, d'une certaine austérité. Il faut revendiquer ce mot-là, hein, austérité. Sinon, on la perd pour toujours. Il faut commencer à l'utiliser à nouveau. Je l'aime bien, en fait. Ça me fait penser aux Grecs, austérité. Mais pas aux Grecs d'aujourd'hui, aux Grecs anciens. Et il faut qu'on ne la laisse pas tomber juste dans la vision des Grecs, des Portugais, des Espagnols d'aujourd'hui. Sinon, on la perd. Alors, il y a une austérité cette idée de souffle qui est une espèce d'austérité biologique. C'est la seule chose qu'on fait, même si on ne fait rien. Et qui m'intéresse beaucoup, surtout dans un monde où on est soumis aux cris des slogans politiques, des slogans de publicitaires, etc., tout le temps. Je pense qu'il faut créer des espaces de chuchotement, de respiration, qui ne sont pas des espaces passifs. Je pense qu'ils sont des espaces de résistance très fortes. C'est comme éteindre la télé, les grands écrans et tous les téléphones, etc., parce qu'on est au théâtre.
Mais justement, pour finir là-dessus, ce point presse avec vous, Thiago Rodrigues, avec Sopro. Alors, vous jouez avec les temporalités, mais aussi les couches de fiction et de réel. La question de la fiction et de la réalité, elle est posée d'entrée. Vous écrivez, alors, citation qui est approximative, parce que je note pendant les représentations, évidemment. Aujourd'hui, la réalité nous noie. Quelque chose comme ça. Ouais. Le théâtre, donc, c'est un des lieux qui peut nous sauver de cette réalité.
Je pense que le théâtre, c'est sûrement un espace de... Si on pense à toutes les sollicitations que notre société nous offre pour ne pas y aller au théâtre, je pense que... Je ne sais pas si aujourd'hui on va plus ou moins au théâtre qu'il y a 71 ans, mais sûrement aujourd'hui, aller au théâtre, c'est beaucoup plus révolutionnaire en tant que geste. Parce qu'on vit dans des sociétés qui nous disent en permanence il ne faut pas y aller, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas facile. Il faut traverser la ville, il faut sortir de la maison, peut-être qu'il va pleuvoir, tu seras à côté des inconnus. Alors tous ces choix aujourd'hui ne sont pas des choix évidents culturellement en tant que société. Alors les gens qui le font, je les trouve de plus en plus des militants. Et des gens qui vont à des lieux de mystère, de pansement critique, d'inconnu, des gens qui achètent des choses qu'ils ne connaissent pas encore. C'est d'un courage dans nos jours où ils nous disent tout le temps qu'il faut juste acheter ce qu'on sait déjà qui va marcher. Alors, il faut préserver ce mystère pour la plus grande quantité de gens, mais ne pas vendre le mystère pour accéder encore à plus de monde. Il faut garder le mystère.
Parce que, comme le dit l'un des personnages, on aime ce qu'on ne connaît pas.
Ouais. Ouais, il y a toujours un pourcentage d'incompréhension quand on regarde quelque chose. Je ne parle pas de mon travail, mais quand on regarde quelque chose qui est vraiment intéressant en art, il y a toujours un morceau d'incompréhension entre nous et cette chose qu'on regarde, qui est en face de nous. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut garder cette incompréhension. Il faut continuer à dire qu'il y a des mystères et des choses pour expliquer entre nous et ce qu'on produit comme discours, comme forme d'art. Et voilà, et ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup. Et dans cette pièce, j'essaie de le traiter et aussi en tant que quelqu'un qui est maintenant à la tête d'un théâtre, j'essaie de le faire en toute pluralité. Alors en disant, c'est pas un genre, c'est quelque chose qu'on découvre dans beaucoup de théâtres, beaucoup de compagnies. Et au Portugal, il y a une qualité, une diversité de compagnies et de créateurs de théâtre immense. Et être dans une maison comme le Théâtre National, c'est d'être aussi avec la responsabilité de préserver un lieu de mystère.
Préserver un lieu de mystère, c'est une belle conclusion pour ce point presse en tout cas. Merci beaucoup.
Merci. Je prends la PASCO, ouais. Je suis au Théâtre National Dona Maria II. Je prends cette opportunité pour vous inviter. Demain, on va présenter un livre qu'on vient de créer. C'est quelque chose qui beaucoup de fois m'est demandé. À propos du théâtre portugais, de la création portugaise. Et on a créé un livre, en fait, il est là, sur le théâtre contemporain portugais, à propos des derniers 15 ans, à peu près 20 compagnies, metteurs en scène. Et on le présente demain à 17h à la Maison Jean Villard. Je remercie le Festival d'Avignon pour avoir permis qu'on ouvre les portes aussi à tant d'artistes qui sûrement il faut découvrir au Portugal. Et alors c'est pas un ticket low cost pour aller à Lisbonne, mais je pense qu'il y a plein de raisons pour plusieurs tickets low cost pour aller à Lisbonne dans les prochains mois.
Très bien, merci beaucoup. On va poursuivre tout de suite ce point presse avec notre deuxième invité, Ambra Senator, et chorégraphe, danseuse, performeuse, directrice du Centre chorégraphique national de Nantes depuis janvier 2016. Vous présentez ici Scena Madre avec un astérisque, j'arrive jamais à le dire. Évidemment, tout le monde se demande ce que signifie cet astérisque, qu'il est là pourquoi ?
Il prend beaucoup de place alors, en effet.
Comme ça, on n'en parlera plus.
Voilà, non, mais c'est bien. Donc, ça représente des multiples possibles sous-titres. On n'avait pas des sous-titres, on avait l'envie qu'il y en ait des milliers, comme dans la pièce au départ. Après, je ne suis plus sûre de ce qui est aujourd'hui parce qu'elle vient de naître, donc je la connais beaucoup, mais pas encore comme ça sera dans quelques mois. Mais au début, il y avait l'envie d'une petite scène, une petite action de deux personnes qui peut se développer et avoir des avant et des après très différents. Donc aussi le titre, l'idée c'était qu'il puisse avoir plein de au pied de la page.
Voilà. Note en bas de page.
Donc c'est pour ça qu'on a mis cet astérisque, et aussi pour respecter une autre compagnie italienne qui tourne avec une pièce qui s'appelle Scena Madre, qu'ils ont créée beaucoup de temps avant moi. Scena Madre, c'est une manière de dire en italien, donc c'est normal d'y penser à plusieurs. Mais ils m'ont appelé, ils étaient très embêtés par ce titre, et donc on s'est mis d'accord sur quelque chose qui faisait une différence. Et je trouve que c'était important aussi de respecter leur désir de garder ce titre pour leur pièce. Voilà.
Alors cette scène mère, c'est d'abord un plateau nu, un carré blanc, il y a des rideaux noirs sur les côtés, en fond de scène, Puis d'abord des individus qui entrent, qui sortent, qui s'arrêtent parfois quelques instants. C'est un espace dans lequel on se dit tout de suite que tout est possible. Est-ce que c'était ça l'envie de départ pour vous ?
Voilà, c'est un astérisque en fait. L'espace de scène est un astérisque. Oui, en effet.
Mais j'ai pensé à la... Alors c'est peut-être parce qu'on y revient, mais ça m'obsède. J'ai pensé à la Black Lodge de Twin Peaks, mais en version un peu apaisée, un peu moins inquiète, mais quand même.
C'est vrai qu'il y a donc quelques retours qui commencent à arriver et la référence à Twin Peaks arrive. Alors moi, j'ai peut-être vu quelques épisodes à l'époque, quand j'étais, je pense...
Très jeune, très jeune.
La fin du collège, début du lycée, mais sans être passionnée forcément. Mais est-ce que ça a mis quelque chose d'inconscient dans moi, peut-être ? Donc, ce n'est pas une référence volontaire, mais on observe que c'est quelque chose qui est remarqué par les spectateurs aussi.
Bon, voilà.
Proximité. Après,
Mais dès le début également, je continue un tout petit peu dans la description, il y a des bouffées de son. Alors, une, deux, trois secondes, un peu plus parfois, une cloche, les oiseaux, une sonnette, des aboiements, de la musique. Et chaque son, m'a-t-il semblé, comme un éclat de récit, comme une histoire possible, là encore. Oui. Il y a par exemple un jingle, moi j'ai noté dans mon carnet, « Entrée femme fatale », avec une musique hollywoodienne.
Oui, c'est ça.
Quelle fonction ça a pour vous, ces sons-là ?
Oui, donc en effet, tout ce que vous citez, que ce soit la référence précédente ou le traitement des sons, ont un peu à voir un effet, ça oui, avec le cinéma. Donc ça, c'était cette fois un choix, alors que pour des pièces précédentes, c'était quelque chose qui était observé par les spectateurs et on en devenait conscient, nous aussi, pendant le processus de création, mais ce n'était pas volontaire. Alors cette fois, on s'est dit, pourquoi pas assumer qu'on a cette proximité physiologique, je ne sais pas comment dire, dans nous. Je parle de nous parce que je travaille aussi avec une équipe, donc c'est ma création, mais c'est notre création. Et donc, on a assumé qu'on voulait laisser que ça soit plus volontaire, voir où ça a mené. Donc, les sons qui sont travaillés avec Jonathan Selman, qui est ce garçon-là, que je remercie beaucoup pour la belle collaboration. C'est la deuxième pièce qu'on crée ensemble. On a un projet sonore qui est collectif, à deux. Et puis les musiques, donc il est vraiment l'auteur, parce que moi je serais incapable, mais le côté son, c'est vraiment travailler à deux. Et j'avais envie, comme dans la danse, que ce soit de la danse ou comme dans la présence des corps, de poser comme des couches, des indices qu'on peut retrouver des fois ou pas. Donc c'est comme si on renversait un grand pot de vie ou de cinéma, ou des deux qui se croisent, et qu'on donnait des petites touches au départ qui rendraient possible des suites infinies. On n'a pas des suites infinies, on en a certaines, on en a choisi certaines, mais d'autres seraient possibles. Et c'est ça un peu que peut-être vous avez lu dans ces sons, et c'est comme ça. C'est des sons de vie, mais aussi avec déjà un clin d'œil au cinéma, en effet.
Et puis, alors au bout de 16 minutes, en tout cas quand je l'ai vu, noir, et puis l'irruption de la parole. Est-ce que vous saviez dès le départ que la parole, le texte, aurait une grande importance dans cette création ?
Oui, alors c'était prévu qu'il y ait de la parole parce qu'on voulait... Donc, je voulais travailler au départ autour d'une rencontre qui puisse être la même et à chaque fois autre. Au final, il n'y a pas forcément cette rencontre, il y a le souvenir d'une rencontre peut-être. C'est une rencontre entre deux êtres humains et du coup, la parole fait partie de la vie humaine. Donc, c'était prévu qu'il y ait de la parole. La pièce précédente, était vraiment centrée sur beaucoup de paroles, traitée de manière chorégraphique. Enfin, moi, j'ai l'impression de traiter le texte de manière vraiment chorégraphique. Je le découpe, je le recompose, comme on a toujours fait avec la danse depuis des siècles, comme des pas qui reviennent et qu'on mêle autrement. Donc, je pense que c'est ça qu'on fait aussi dans cette pièce. Mais oui, c'était prévu du départ qu'il y ait de la parole. Et le fait qu'elle arrive au bout d'un moment, c'est dans cette démarche de poser des couches de construction où je présente des personnes, voire des personnages, sans que ça soit très clair en même temps. Et après, je rajoute des relations dans les regards, et après, des bouts de paroles, et plus tard, des textes un peu plus complexes, alors que c'est pas très...
Oui, mais au départ, justement, ces paroles-là, l'odeur du cigare vous trahira toujours, Spencer, et quelques autres, j'ai l'impression que ça avait la même fonction que les sons, c'est-à-dire des éclats de récit aussi.
Alors, c'est tout à fait ça. Enfin, pour moi, dans la composition, c'était ça, le poids.
Mais ces phrases aussi, elles amènent... Alors, une chose qui est importante dans ce spectacle, c'est une dimension comique. Oui. L'humour est extrêmement présent. Ce qui n'est pas la valeur la plus répandue dans le monde de la danse contemporaine, on va dire ça comme ça. Mais on joue avec les codes, avec le cinéma, avec le théâtre, sur tous les signes culturels de reconnaissance. Il y a même un duel de western. Vous aviez envie de travailler sur l'imaginaire commun aussi et de vous en amuser ?
En effet, oui. On a des retours de personnes qui me disent « Ah, vous avez cité tel et tel film ». Mais par contre, nous, non. On n'a pas cité tel et tel film, mais l'imaginaire collectif est sûrement par rapport à des genres, oui. Mais des genres assez majeurs, sans beaucoup de finesse dans le choix de ça. J'espère avec une finesse dans la composition, mais c'était vraiment bon. Le western, le film, le grand film d'amour, ou alors le film de spionnage, ça se dit pas, le policier, voilà, c'était assez des gros tranches. Hein. Donc, mais oui, l'imaginaire collectif est plus une citation que des films exprès, pour moi. La conscience était sur, autour de l'imaginaire collectif, oui.
Et la place de l'humour ?
Et la place de l'humour. Alors, ça date d'un peu de temps, c'est-à-dire que je me suis découverte pouvoir apporter, enfin, pouvoir avoir, je ne sais pas comment dire ça en français, faire rire les gens avec moi et pas de moi, j'espère, quand j'ai créé mon premier solo en 2004. Ce n'était pas prévu. Moi, j'étais partie sur un désir de création et puis j'ai vu qu'avec tout ce que je faisais, ça venait aussi le rire. Peut-être amener une certaine distance que je prenais des choses. Je les affirmais et en même temps, est-ce que c'est de la pudeur ? Est-ce que c'est une faiblesse ? Je ne sais pas. C'était prendre une distance même. Donc dire quelque chose de tragique, mais l'observer de loin. C'est une attitude que j'ai aussi dans la vie, je pense. Et je me fais accompagner par des gens qui la partagent peut-être aussi dans la vie, parce qu'on a une vie agréable. Hein, on a de la chance. On n'a pas beaucoup de guerre chez nous, enfin, même si... Bon, ça, c'est un long discours, mais je veux dire, on s'engueule avec ton partenaire pour qu'il descend en bas la poubelle. C'est très drôle, voilà. Et des choses de vie, si on regarde des choses de vie qui nous font parfois désespérer, c'est absurde. C'est... Donc, ce regard arrive sur scène. L'humour est là pour ça, en fait. C'est cette petite distance sur des choses de vie de tous les jours.
Alors, j'ai un peu beaucoup, d'ailleurs, décrit certains éléments, donc on comprend que c'est... C'est riche, hein, tout ça ne dure qu'une heure en tout. Et ce qui frappe, c'est la très grande fluidité du spectacle, alors qu'il s'agit donc d'une reconstruction à partir d'éléments très déstructurés.
Oui.
Comment est-ce que la pièce se construit dans le travail avec vos interprètes ?
D'un point de vue du processus ?
Ouais.
Alors, donc, je lance des pistes d'improvisation assez ouvertes. Et je ne sais pas, pas dire où elles sont précises, parce qu'elles le sont aussi, parce que chaque pièce est différente, donc il y a un désir différent. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est comme... on improvise beaucoup. Donc je m'appuie beaucoup sur les propositions des interprètes, qui sont très créateurs aussi. Et on improvise, et ça avance comme ça, avec improvisation, discours autour de ce qui s'est passé. On se met en condition de pouvoir être très, très libre et disponible dans l'improvisation, comme si on devenait des sortes de paraboles. Et tout ce qui se passe dans la salle quand on est en train d'improviser devient un appel auquel il faut dire oui. C'est ça que je dis aux danseurs. Disons oui, mais sans chercher avec la tête. La tête est là, bien sûr, mais c'est le corps entier qui doit être porté et se mettre dans une condition où on a envie d'être porté par les choses. Et on propose sans que ce soit la tête à décider quoi on propose. Et on essaye ça. Après, il y a beaucoup de têtes dans la réflexion ensemble et... On commence à prendre un parcours, c'est comme un voyage. On part avec certains outils, on découvre plein de choses qu'on n'aurait pas imaginées. Et après, la dernière phase, c'est celle où les matériaux sont clairs, mais c'est beaucoup moins. C'est l'envie d'une structure. C'est moi, avant la thématique, une pièce, pour moi, ce qui m'appelle à la création, c'est vraiment la structure, cette notion de composition. Réussite ou pas, ça dépend, mais c'est vraiment cette idée de comment construire le puzzle. Et comment le développer dans le temps. Donc il y a une évolution non pas linéaire dans la narration, mais par contre dans la composition, c'est là que je cherche le linéaire. Vous avez utilisé un terme.
La fluidité.
La fluidité et le sens aussi qui est dans la structure. Mais je ne sais pas si je réponds, et c'est beaucoup de travail de tête après.
Mais si justement vous répondez, mais comment est-ce que vous savez que vous avez trouvé la bonne construction, la bonne durée, que la pièce est achevée autant qu'elle puisse l'être ?
Je ne le sais pas, donc j'espère que ce soit les spectateurs qui trouvent ça réussi. Après, non, c'est vrai qu'on a des sensations. C'est aussi un peu compliqué parce que je suis sur scène, donc je sors, je re-rentre, je les abandonne, je me retrouve interprète, je fais que des bêtises parce que je me retrouve dedans avec un regard extérieur. Donc. Mais c'est un ordre pas, peut-être, je ne saurais pas l'expliquer. On a des clartés par rapport au rythme. Je ne sais pas expliquer d'un point de vue rationnel, mais d'autres oui, d'autres vraiment de l'ordre. Bon, d'abord c'est ouvert, et après on referme sur certaines histoires, notamment pour cette création, mais après on les fait réexploser. Donc nous on part de bloc 1, 2 et 3 dans la pièce par rapport à cette évolution. Ça c'est mental, c'est rationnel, mais après pourquoi cette durée, pourquoi ça, c'est un ordre moins visible. Exposable avec les mots. C'est d'ordre du ressenti. Et des fois, il y a des rythmes. On sent que ça ne marche pas et on ne trouve pas la solution. Et puis, bon, on espère. Et des fois, elle arrive après 2 semaines avec un petit truc. Mais c'est une sensation interne qui dit ça ne marche pas au niveau du timing et du rythme.
Et c'est une matière vivante, une pièce. C'est-à-dire que tant que vous la jouez, elle peut. Et presque, elle doit aussi évoluer.
Oui, oui. Pour moi, ça l'est et ça met en danger des fois pour les interprètes. Hier, on a encore travaillé des sons et des musiques à 10 minutes de l'entrée des spectateurs pour Jonathan et des notes qui changent. Une fois dans ma vie, ça m'est arrivé d'écrire un livre. C'était éditer la thèse de doctorat, donc rien de très intéressant. Mais il fallait que ça soit fini, donc ça allait sur une page et c'était édité. Ça ne pouvait plus bouger. Catastrophique. Alors, le spectacle vivant, théoriquement, je peux toujours tout changer. Je ne le fais pas exactement, mais quand même, ça change un peu à chaque soir. Et c'est un bonheur. Donc, jamais rien de fixe. Le doute qui reste tout le temps, des solutions possibles, de la relation qui change avec les gens. Et ça, ça me parle beaucoup et c'est très important pour moi, cette ouverture qui reste, même s'il y a une précision d'écriture.
Merci beaucoup, Ambra Senator, et d'avoir
Merci
partagé avec nous
votre
travail.
Merci à vous, et je remercie toute l'équipe et le Festival d'Avignon pour la belle accueil.
Merci à vous. Nous poursuivons ce point presse, oui, avec quelques bouteilles d'eau au besoin, parce que pour tout le monde, voilà. Je vois que la passe Samoan marche. On est en mode rugby ici. On poursuit avec Lémy Ponifacio, et accompagné donc par Guillaume Soulard, qui va assurer la traduction de notre échange. Lémy Ponifacio, chorégraphe, danseur, metteur en scène, designer, plasticien, samoan, néo-zélandais, était présent dans la cour d'honneur en 2014 avec I Am, de retour cette année avec Standing in Time. Alors c'est la femme, ce sont les femmes qui sont au cœur de ce spectacle, des femmes de notre temps, mais aussi des figures divines, mythologiques. Ça fait plusieurs années, commençons par là, que vous vous intéressez à des communautés de femmes maoris qui vivent dans des lieux très reculés, isolés de Nouvelle-Zélande. Que représentent ces femmes pour vous aujourd'hui ? Pourquoi s'intéresser à elles ?
Good morning. The women I work with are my friends. I've been working with them for some years now. A lot of my work is motivated by what can happen or happens or has happened to them and their families and their communities. And so that's why I'm working with them.
Les femmes avec qui je travaille sont des amies pour certaines depuis des années. Et ce qui m'intéresse, c'est finalement ce qui leur arrive dans leur famille, dans leur communauté, leur quotidien.
Ces femmes sont mises à l'écart, d'une certaine façon, par la société. Elles n'ont pas choisi d'être ainsi isolées.
Those women are on the side of the society. They haven't chosen to be isolated. Oh, no.
Non, non, elles n'ont pas. They have not chosen.
No. For me, the question of what happened to women at some point and about women's leadership in the community, I think we need. and so the women is speaking about their presence, their being, who they are in the world. And they are not speaking about just about themselves, but I think they are speaking for a sense of a sense of justice. And what I mean by that is a sense of how do we create a balance of being with each other. You know, justice for me is simply, if you are weak, then it's my responsibility to help you. That's all. Wow.
Sorry, I've missed the beginning. But,
fire.
Bon, je ne suis pas traducteur professionnel, hein. Mais non, pour moi, la question de ces femmes, c'est ce qu'elles... c'est de parler de ce qu'elles sont, mais pas d'elles-mêmes, de parler d'un certain sens de la justice et comment on crée un équilibre dans cet état d'être, si je puis employer ce mot, ce rapport des uns avec les autres.
Et c'est le fait, je continue la traduction, oui, du coup, et
viens,
le fait...
Je viens un coup de main.
Le fait, si elles sont faibles, eh ben, il faut être là pour les aider. Alors, elles sont... neuf sur scène, elles sont habillées en noir, elles chantent leurs propres compositions. Il y a aussi des poèmes de Racha Arabas, qui est une écrivaine syrienne, qu'elles font entendre. Dans les deux cas, vous avez choisi de ne pas proposer de surtitres. C'était déjà le cas avec Ayam. Vous avez besoin des mots, mais pas pour leur signification, pour ce qu'ils dégagent par leur sonorité.
There is no subtitle on stage, and it was different from IAM. You have subtitles.
No, it was the same for IAM.
No, not. There's no subtitle as well. Okay. Mm-hmm. And what the je peux avoir la fin, du coup.
You need the words, but not for their meaning, but for their being.
Yeah, because the song is not translated.
Okay, good.
yeah. The words are very poor communicators of the experience of being in the world. And even now I am struggling to explain what I'm thinking.
Les mots nous disent très peu en fait de choses sur ce qu'on vit dans le monde, dans notre rapport au monde. Ils sont pas très utiles du coup.
The theater is, or the performance is about trying to go beyond language.
Le théâtre, la performance, c'est d'aller au-delà du langage.
Yeah, creation language is something that I think you already know.
La langue, le langage, c'est quelque chose qu'on connaît déjà.
And language is a kind of a wishful thinking for meaning.
I miss wishful, Arnaud.
Alors la langue, ce serait comme ce serait. Yes. On espère qu'elle pourra dire quelque chose. On place en elle un espoir qu'elle peut dire quelque chose.
Yeah. So, but language is part of who we are, and so we bring all that to the stage, and then we can somehow reconstitute, recompose, rethink, reimagine what existence can be.
La langue est une partie de nous-mêmes. On l'amène avec nous sur scène, et on peut penser, repenser la fin.
Notre essence.
Notre essence, voilà.
Parce que j'étais sur la question d'après, pardon. Ça va être compliqué.
On va y arriver.
Le plateau est nu. Vous refusez aussi les accessoires du théâtre. Vous ne voulez rien qui puisse interférer entre les spectateurs et les interprètes.
It's a choice to have nothing which can interfere between the audience and the performer. Yeah. It's not a style. It's the aim to orient us to a much bigger relationship with life than just with human beings.
C'est pas un style. C'est vraiment un moyen de nous relier à quelque chose de beaucoup plus grand.
So you try to remove what we call reality.
Nous essayons d'enlever ce qu'on peut appeler la réalité.
Because the point of creation is perhaps you're not satisfied with reality.
Parce que la création, c'est peut-être parce qu'on n'est pas satisfait de la réalité.
So to remove the language or any culture in the visual sense it's how to go beyond the shallow difference that makes us interesting for a few moments, and to find a way to go much deeper into how we relate with each other and everything else.
Ce choix d'enlever le langage ou ces petites références culturelles, c'est le moyen de dire que finalement, ce qui nous différencie, nos petites différences culturelles sont très minimes. Ça ne dure qu'un instant, l'intérêt qu'on peut porter à notre culture, et ça nous empêcherait d'aller voir beaucoup plus loin.
Mais du coup, vous faites une très grande confiance dans le spectateur.
Yes, I am not performing for kids.
Oui, je fais pas des spectacles pour les petits ou pour les enfants.
Je pense que les enfants se connectent mieux que les adultes. Vous croyez pas?
Probably the children are more connected than adults sometimes.
True.
C'est vrai.
Et un spectateur qui ne se connecte pas, est-ce que c'est un échec pour vous ou pour lui?
Oh, is that an échec? Is that a failure when someone don't connect from in the audience don't connect with your work?
No. The arts, the performance is not about failure or success. We make performance for those who love it and for those who do not love it. It's important.
Le spectacle n'a rien à voir avec le succès ou l'échec. On fait des spectacles pour ceux qui vont aimer, ceux qui vont pas aimer, et c'est tout.
Yeah. If I don't like your point of view, it doesn't mean you're a failure.
Si j'aime pas ton point de vue, ça veut pas dire que t'es en échec ou que je suis en échec.
Oui, mais là, vous proposez des possibilités d'une connexion avec une sorte de cosmos. Donc là, il y a quand même ça fonctionne ou pas. C'est pas une question d'échec.
It's not about outcome. It's about part of the process of existence. You know, the theater is too much speaking just about human beings. You know, we are part of the evolution of consciousness. We have to think we are part of the tree. You know, the whole point of Darwin is that he liberated us from the chosen ones, and we became brothers and sisters of Earth. You know, and I think in the theater, I feel like we are again talking too much about ourselves. If it's the theater, it's for the chosen ones. The theater performance was born because of the human being want to acknowledge this mystical bond that we have with existence. No?
Okay.
Oh, sorry.
Au théâtre, on parle. C'est pas question. On parle trop de nous-mêmes en tant qu'hommes. C'est l'idée de se relier, on le disait, au cosmos. Et peut-être que l'homme doit s'imaginer peut-être plus lié aux arbres que uniquement à lui-même. Le théâtre n'est pas pour parler de nous-mêmes, il est pour nous inclure dans un processus beaucoup plus important, et dans ce travail de l'émi. Du coup, je remets des discussions qu'on a eues, c'est plus le théâtre, c'est la fusée qui nous emmène vers le cosmos.
The rocket will drive us to the cosmos. This is the theater.
Alors, il y a tout de même un élément que vous utilisez, qui est un artifice, c'est la lumière. Quelle fonction est-ce qu'elle a pour vous?
What is the usefulness of light in your work?
Light is just like a performer on stage.
La lumière est comme un performer sur la scène.
They are there to serve the space.
Elle est là pour servir l'espace.
They are there to create tension and relaxation.
Elle crée de la tension et aussi de la relaxation.
You know, it's just a tension maker in the space. It's like the performer.
Ça met de la tension dans l'espace, comme les performeurs.
Yeah, and the light is not there to so we can see the dancer.
Elle est pas ici pour faire qu'on voit les danseurs.
A lot of the performers on stage, it's hard to see because either the light is too strong or too low.
Souvent, c'est dans d'autres performances, c'est difficile parce que c'est trop fort ou pas assez.
Yeah, and so how to invite the light to have a physical relationship with body, with space,
La question, c'est comment inviter la lumière d'avoir une responsabilité avec l'espace, avec le corps.
Yeah, just like time, like the performer. Yeah.
Comme le temps de la performance.
La durée, justement, d'un spectacle, appelons ça quand même un spectacle, Lemmy Bonifacio, comment est-ce que vous savez que le spectacle fait la bonne durée?
How do you know as the performance has the good duration, the timing?
Oh, I don't know. Sometimes you just know you should stop talking.
Je ne sais pas, des fois on s'arrête juste de parler parce qu'on a fini.
On a fini. Merci beaucoup, Lemmy Bonifacio. Et merci, Guillaume Soulard.
Merci, merci.
Ah, voilà, il est là. Pierre-Yves Chapalin devait arriver en courant de la chapelle des Pays Temblants, où c'est terminé il y a pas très longtemps. La troisième représentation de Où sont les ogres ?
Quatrième.
Déjà, comme le temps passe. Ouais. En fait, il est venu plus tôt. Merci à vous d'avoir pris sur votre temps, parce que ce spectacle, évidemment, vous l'avez écrit, mis en scène, donc il est important. Vous étiez l'an passé présent au Festival d'Avignon en tant qu'interprète du très beau spectacle de Bérangère Ventusseau sur le texte d'après Robert Walser à l'Institut Benjaminta. On vous a vu souvent jouer aussi sous la direction de Joël Pommerat, notamment, entre autres, hein, mais ce n'est pas le moins marquant. Mais vous menez aussi depuis plus de 10 ans un travail d'auteur et de metteur en scène. Où sont les ogres ? C'est cette nouvelle création. Ça commence comme une scène, moi je pense toujours à ça, une scène de Jeanne Dielman, de Chantal Akerman. C'est une femme à la table de cuisine en train de préparer à manger. Mais il y a une musique de corrida, donc on se dit que les choses ne vont pas forcément bien se passer. Ça amène tout de suite une étrangeté, une inquiétude. C'est important le début d'un spectacle, surtout qu'elle est là, pendant qu'on était encore en train un peu de s'installer, nous, public. Comment est-ce que ce début est venu ?
En fait, on vient de le créer là, donc voilà. Mais effectivement, au début, j'aime bien le contact avec... ça, c'est commun de dire ça, mais que quand il y a un vrai contact avec le public et que... Justement, au début de sa naissance, le spectacle, il est un petit peu en train de trouver des marques, de replonger dans ses particularités, de retrouver les raisons profondes pour lesquelles on a fait ce spectacle, etc. Et donc, c'est un peu la période que je traverse là actuellement avec les acteurs et toute l'équipe. Et effectivement, faudrait avoir un rapport humain simple comme ça avec les gens. Ça m'importe beaucoup. Comme si on était dans son salon en train de regarder des gens qui venaient dedans et qui commençaient à nous parler, et puis nous parler de choses qui nous emmènent un peu ailleurs, quoi.
Vous parlez de raisons profondes, Pierre-Yves Chapalin. Justement, je me demandais à l'origine de ce spectacle, est-ce que c'est une image, un sujet, une idée ? Ça commence comment ? Celui-là, en tout cas.
Oui, celui-là. Là, enfin, ça m'intéressait l'histoire de l'intelligence artificielle. Bon, et puis j'ai travaillé un petit peu dessus. Et puis, en même temps, c'est fascinant pour beaucoup de monde, etc. Et c'est les générations à venir qui vont être concernées par ça encore plus que nous, enfin, ou même nous déjà, de toute façon. Et puis, dans cette histoire, ça me plaisait qu'à un moment donné. L'héroïne, les jeunes filles, enfin qui sont concernées, enfin l'héroïne en l'occurrence, soit ramenée à quelque chose de plus archaïque, qui sont ses pulsions, et pour y accéder, elle y accède en ouvrant une porte, puis une deuxième porte, et un peu comme dans Alice au pays des merveilles, enfin pour donner une image simple. Et donc c'est un peu ça que j'ai cherché à faire là, et c'est une des raisons profondes. Je voulais retraverser ça. Pour, après avoir retrouvé son, on pourrait dire ses pulsions, pour dire vite, pour retrouver quelque chose de plus cosmologique. Parce qu'on a toutes les possibilités créatives en nous, chacun de nous. Et donc, c'est un peu là-dessus que, comme c'est aussi un spectacle qui concerne les plus jeunes, de là-dedans, de leur dire que, enfin, de leur dire avec comme je peux, qu'on a un potentiel créatif en nous. Et donc c'est là-dessus que ça travaille et qu'on a beaucoup de choses, voilà, qu'on peut pas nier et qui au contraire nous donnent de la vitalité et de la vie pour l'avenir, quoi.
Alors, ce qui est beau, c'est que ce que vous racontez là, Pierre-Yves Chapala, c'est le parcours que moi j'ai eu et qu'auront les spectateurs. C'est-à-dire qu'il y a ce point de départ ultra contemporain, la vie connectée des adolescents. Et est-ce que l'ami qu'on a sur Internet existe vraiment ou est-ce que c'est une intelligence artificielle? Mais c'est, alors c'est pas une fausse piste parce que c'en est une, mais ça va nous amener ailleurs. Ouais. Et vous passez de l'ultra contemporain à l'ancestral, la figure de l'ogre. Mais ça, c'est le parcours de l'écriture, vraiment, de votre recherche à vous. Finalement, le spectacle, ça rejoint votre processus créatif complètement.
Oui. Alors, j'ai écrit des textes parce qu'à la base, moi, je voulais écrire aussi parce que j'aimais bien le clown. Et puis, j'ai essayé d'écrire pour le clown que j'étais. Et puis après, au-delà de ça, pour d'autres types de clowns, etc. Et dans l'écriture, mais c'est infini comme travail. Donc, quand on commence à se poser, et que du coup, il y a une chose comme ça joyeuse qu'on peut mettre en mots, mais à peine. Enfin, et parfois oui. Et il y a aussi un autre aspect, c'est la langue. Enfin, c'est une contradiction qui peut nous transporter dans des univers. Le langage, la langue. Et donc là, j'ai essayé de concilier les deux. Et quand j'écrivais, alors je pense avec beaucoup d'humour les choses, enfin peut-être un humour spécial ou je sais pas, mais voilà. Donc en tout cas, après c'est aussi avec le temps que les choses se déposent et apparaissent plus clairement. Mais en tout cas, ça me plaisait de voilà, j'ai écrit en amont comme ça beaucoup de parties de ce texte que j'ai retravaillé avec le plateau et puis. Avec un aspect vivant, clownesque, lié à la pulsion de vie, l'humour qui est pas loin derrière et qui, quand il peut, il ressurgit.
Ah bah, y a toutes les pulsions, parce que c'est évidemment aussi un conte initiatique. La viande, le sang, la mue. Alors on pèle, mais on mue. Hein,
on pèle, on mue. Et
une jeune fille,
on devient une belle femme,
une jeune adolescente. Ouais. Il s'agit à la fois de comprendre, d'apprivoiser les pulsions. Le programme indique à partir de 9 ans. Alors, je sais pas, je me demande toujours comment
ans,
se déterminent
ouais.
les.
C'est ça, ouais. C'est une
7,
fois.
7, 9, 12, enfin. Ouais,
c'est ça. C'est que après, ça peut être 10 ans, en fait. C'est plus à partir de 10 ans.
Bon, allez, 10, on va changer le programme. Apprendre du.
Mais après, on ne sait pas. Ça dépend.
Vous avez déjà eu des premières réactions parce que ça vient de commencer.
C'est ça.
Vous avez des retours de parents et de jeunes gens?
Oui, un petit peu. Oui. Il y a en tout cas des pour les adolescents. En tout cas, pour certains, ça marche très bien et ça ouvre la discussion avec leurs parents et ça ouvre quelque chose. Enfin, en tout cas, m'ont dit certains parents qu'ils ont eu des discussions passionnées après avec leurs enfants.
Parmi les sujets, évidemment, on pense à une phrase, je ne vais pas à l'école parce qu'à l'école, on m'apprend ce que je ne sais pas.
Ah oui, mais ça c'est... Oui,
ça c'est pas Pierre-Yves Chapala, c'est non, Marguerite Duras, mais il y a aussi cette idée-là.
Oui, c'est ça.
Dans le spectacle.
Oui, tout à fait. C'est vrai que dans... j'aime beaucoup ce texte de Marguerite Duras, évidemment, La pluie d'été. Et dans La pluie d'été, effectivement, il y a cette idée qui me semble très juste et moi qui me parle beaucoup parce que ça a été un peu mon cas un peu dans l'enfance où justement on peut trouver, enfin c'est pas, on n'apprend pas tout à l'école et c'est avec notre intuition aussi qu'on peut forer beaucoup de portes pour connaître des endroits un peu qu'on nous guide, où on nous guide pas par la main, quoi.
D'ailleurs les forêts.
Les forêts.
Par exemple.
Notre forêt, la forêt.
Il faut aller dans les forêts. Alors justement, sur la forme aussi, c'est une des très grandes réussites du spectacle. C'est une réinvention de l'espace à chaque fois. Alors avec la collaboration d'Éric Soyer, qui n'est pas non plus le plus mauvais dans son domaine. Quel type d'indication vous lui avez donné? Comment vous avez travaillé avec lui
Sur les situations, quand je lui en parlais, je lui disais, voilà, puis là, à ce moment-là... comment dirais-je, ce qui serait bien, c'est que le cirque arrive dans la cuisine, et puis après que du cirque, on arrive dans la forêt. Enfin, où, et donc voilà, c'est des choses que tout le monde connaît, mais comment le mettre en pratique avec des moyens très simples. Voilà, c'est toute une mécanique en même temps qui est en dessous, mais qui est quand même assez simple.
Et très spectaculaire.
Ouais.
Pour nous dans la salle.
D'accord.
Vous en doutez ?
Oui, enfin oui et non.
Vous ne le voyez plus ? Vous êtes trop près ?
C'est ça. Non, mais après, je reverrai mieux cet après-midi. Mais effectivement, oui, il y a un côté légèrement spectaculaire et en contact avec le public comme ça, oui. Du clown, des personnes qui interviennent. Mais ce n'était pas complètement voulu. Mais enfin, après, ce qui me plaisait, c'était à chaque fois, il y a comme une porte qui s'ouvre et il y a carrément un autre univers qui surgit.
Je vous sens plein de doutes encore. Je vous assure que c'est très réussi. Hein.
Merci.
Et dans l'écriture, et on n'a pas parlé des interprètes.
Ils sont très bien, oui.
Ils sont
formidables. Oui, ils sont formidables.
Tout ce qui n'est pas exactement vous, vous êtes sûr que ça
voilà.
va.
Voilà, non, mais je suis assez sûr de ce que je fais, mais en même temps, comme on est en plein travail et tout ça, on prend des précautions, peut-être, tout ça, mais je suis très content dans le fond. Mais effectivement, comme on est en train de chercher comment au mieux rendre encore plus vivant telle partie, voilà, c'est des phases comme ça qui font que...
Mais ça, sont des phases habituelles pour vous ? C'est-à-dire qu'il y a toujours sur les premières, un certain nombre de premières, un travail d'ajustement. Mais est-ce qu'il y a un moment où vous dites qu'il faut, il faut que le spectacle vive sa vie aussi ? Ou est-ce que vous êtes toujours là quand même ?
Non. Il y a un moment où il faut qu'il vive sa vie. Et puis après, si on retravaille, on en reparle quand on a une pause et on retravaille des moments. Voilà, en fait.
Parce qu'il y a beaucoup de dates à venir après Avignon.
Oui, à l'automne, oui. Ouais. Oui, tout à fait.
Et ça veut dire, c'est une nouvelle vie à ce moment-là ou c'est...
Oui, c'est un peu une nouvelle vie aussi, oui. Ouais.
Vous avez l'air presque de l'attendre déjà, mais il faut savourer Avignon.
Il faut savourer, exactement. Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison.
Vous avez de quoi le savourer.
Ouais, merci.
Merci beaucoup à vous, Pierre-Yves Chapala.